VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Bion.
Bonsoir à tous. Un homme a été condamné à mort en Arabie Saoudite. C'est le thème du dialogue des religions et Idrissa Seydou Zidia vous invite à commenter sur le sujet au numéro 225 58 92 85 40. Mais tout d'abord, le journal. En commençant en République démocratique du Congo, les services secrets français disent qu'ils n'ont rien à voir avec le meurtre de deux opposants congolais à la fin des années 2000 en France. Assurance donnée par un ancien haut responsable du service de renseignement français au procès des commanditaires présumés. Deux hommes jugés depuis lundi sont accusés en effet d'avoir fomenté l'assassinat de Philemon Nalouinja, chef Maïmaï d'une tribu de la région du Kivu en République démocratique du Congo, et d'Aimé Atambina, le conseiller militaire du gouvernement congolais à l'époque de Mobutu Sese Seko au pouvoir de 1965 à 1997. Dans le sud-est de la République démocratique du Congo, 18 personnes ont été tuées depuis le 15 février dans des attaques menées par des miliciens pygmées contre des villages bantous. Ce bilan, c'est le bilan annoncé par les Nations Unies. Crise en Centrafrique, les anciens présidents François Bozizé et Michel Djotodia sont prêts à signer une déclaration pour rejoindre le processus de réconciliation et ils étaient accusés par Bangui de saper la transition. Des précisions, Morgane Guériec.
Les deux hommes, engagés depuis début décembre dans des pourparlers de paix à Nairobi aux côtés d'ex-rebelles de la Seleka et de miliciens anti-Balaka, ont paraphé un texte commun dans lequel ils disent adhérer à l'accord de cessation des hostilités signé à Brazzaville le 23 juillet 2014. Cet accord, arraché entre l'ex-Seleka, à dominante musulmane, et les milices anti-Balaka rivales, majoritairement chrétiennes, n'avait pas mis fin pour autant aux violences intercommunautaires. Dans ce texte, qui selon une source proche des négociations devrait être formellement signé lors d'une cérémonie en présence du médiateur de la crise, le président congolais Denis Sassou Nguesso, Bozizé et Djotodia appellent leurs partisans et sympathisants à soutenir le processus de sortie de crise résultant de l'application effective de la feuille de route de la transition. Ils se disent disponibles à participer à tous les organes et structures en charge de la préparation du forum politique inclusif de Bangui et des élections à venir. Selon la source proche des négociations, ex-Seleka et anti-Balaka ont amendé l'accord de janvier qui pourrait être formellement signé avec la déclaration des ex-présidents.
Toujours en Centrafrique, alors qu'un début de solution semblait avoir été trouvé hier, les étudiants de l'université de Bangui sont descendus de nouveau dans la rue ce matin pour réclamer le paiement de leur bourse.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Guinée, la nomination d'un militaire à la tête du ministère de l'administration territoriale par le président Alpha Condé a suscité de nombreuses réactions à Conakry. Le général Bourama Condé remplace Alassane Condé depuis hier, ce dernier devenant conseiller présidentiel. Nathalie Baj a joint ici même à Washington le politologue guinéen Chérif Nema François.
Depuis 2010, les Nations Unies, en partenariat avec les autres organisations régionales et sous-régionales, ont décidé d'aider la Guinée pour engager la réforme de l'armée. Donc il était question que l'armée reste dans les casernes, de pacifier le pouvoir. Donc c'est avec un grand étonnement que nous avons appris qu'un autre général vient d'être nommé pour gérer effectivement les élections qui ne sont pas encore programmées pour cette année, qui devraient être organisées. La date devrait être connue, mais jusqu'à présent, la date n'est pas connue. Donc un général qui n'a aucune expérience dans l'organisation des élections, alors le peuple a appris la nouvelle avec un grand regret. C'est une marche en arrière sur le plan démocratique de la Guinée.
Et toujours en Guinée, l'imam de la mosquée de Yimbaya, poursuivi pour coups et blessures sur des agents en campagne contre le virus Ebola, a été relaxé. Au Mali, pour sauver les manuscrits de Tombouctou, les archivistes numérisent et classent laborieusement dans un ordinateur les précieux parchemins entassés sur des étagères métalliques. Rescapés des outrages du temps de l'occupation djihadiste, les manuscrits de Tombouctou risquent de dépérir loin de leur légendaire cité malienne. La Libye pourrait se transformer en une nouvelle Syrie, telle est la mise en garde du ministre libyen des Affaires étrangères cité par l'AFP lors d'une visite mardi soir à Paris. Mohamed Deri a déclaré que les Occidentaux doivent armer les forces libyennes qui combattent les djihadistes. Il s'agit d'une menace qui s'intensifie contre l'Europe, a-t-il souligné. Mogadiscio se félicite de la nomination d'un nouvel ambassadeur américain en Somalie, le premier depuis 1991, c'est-à-dire depuis la chute du dictateur Siad Barré et la guerre civile qui a suivi. Cependant, les États-Unis sont toujours réticents à ouvrir une ambassade dans le pays pour des raisons sécuritaires. Michel Joseph.
Pour le premier ministre somalien Omar Abdirachid, la nomination de Catherine Danani représente assurément un développement très positif dans les relations avec Washington. Joint par téléphone à Mogadiscio, son porte-parole Ridwan Hadji a dit à la VOA.
Cette nomination tombe à point nommé. C'est en effet pendant les années 2015 et 2016 que le gouvernement somalien veut réaliser beaucoup de choses et le soutien des États-Unis dans le domaine de l'assistance sécuritaire et humanitaire est vraiment important. La diplomate Catherine Danani a servi dans plusieurs pays africains, dont le Zimbabwe, le Gabon, la Zambie, la RDC et le Congo-Brazzaville. Si le Sénat entérine sa nomination, elle remplacera le représentant spécial des États-Unis qui opère actuellement à partir de Nairobi au Kenya. Mais l'ouverture d'une ambassade à Mogadiscio devra attendre car, selon le département d'État, tout dépendra de l'amélioration des conditions sécuritaires.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Notez notre nouvelle adresse voafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
Plus de 100 personnes ont trouvé la mort ce mercredi dans une série d'avalanches ayant frappé le nord de l'Afghanistan. La région a enregistré de fortes chutes de neige depuis deux jours. On compte aussi plusieurs dizaines de blessés, tandis que d'autres personnes sont portées disparues. Dans un communiqué publié dans la soirée, le président Ashraf Ghani s'est dit attristé par la perte de vies humaines, notamment dans les provinces du Panchi, de Lagman, Nangarhar et Bayan. Les autorités locales n'arrivent pas à monter des opérations de secours effectives, faute d'équipement, ont-elles déclaré à l'AFP. Ni Moscou, ni les rebelles séparatistes pro-russes de l'est de l'Ukraine ne respectent le cessez-le-feu qu'ils ont signé à la mi-février. Accusation portée par le secrétaire d'État américain John Kerry. À ce jour, dit-il, ni la Russie, ni les forces qu'elles soutiennent ne remplissent leurs engagements contenus dans l'accord de Minsk. A dit M. Kerry, devant une commission du Congrès américain, le chef de la diplomatie américaine a rappelé l'éventualité de nouvelles sanctions américaines contre la Russie. Dans la capitale syrienne de quatre parlementaires français de la majorité socialiste et de l'opposition de droite, la rencontre de ces élus avec le président Bachar al-Assad va à contre-courant de la politique du gouvernement français. En effet, il n'existe pas de relation diplomatique entre Paris et Damas depuis 2012. Ces députés et sénateurs se disent en mission personnelle, mais leurs entretiens avec les officiels syriens ont porté sur l'état des relations franco-syriennes et la question du terrorisme. Indique-t-on dans la presse syrienne, la France exige le départ du président Bachar al-Assad et soutient qu'il ne peut faire partie d'une solution politique. Les cinq membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU devraient s'abstenir d'user de leur droit de veto dans les cas de génocide et d'autres tueries de masse. C'est l'appel lancé par Amnesty International dans son rapport annuel publié ce mercredi. Dans un entretien accordé à la section anglophone de la VOA, le secrétaire général de l'ONG de défense des droits de l'homme, Salil Chetty, a souligné que des millions de civils ont souffert d'horribles violences durant l'année écoulée un peu partout à travers le monde. Par exemple, en Ukraine, à Gaza et au Nigeria. Et la Cour suprême américaine a entendu les arguments aujourd'hui sur une allégation de discrimination par une femme musulmane qui a été rejetée pour un emploi dans un magasin de vêtements de premier plan parce qu'elle portait un hijab. Samantha Elof avait 17 ans quand elle s'est vue refuser un poste de vendeuse en 2008 dans un magasin d'Abercrombie and Fitch du sud-ouest des États-Unis. La raison évoquée par les responsables du magasin, Elof ne répondait pas aux critères vestimentaires du détaillant. Après un procès pour discrimination, un jury lui a accordé 20 000 dollars, mais une cour d'appel a annulé le verdict. On termine ce journal par le sport. L'Allemand Gernot Rohr a été nommé par la Fédération burkinabé de football. Gernot Rohr, âgé de 61 ans, ancien sélectionneur du Gabon et du Niger, remplace le Belge Paul Put qui a convenu avec la FBF d'une séparation à l'amiable. Les étalons, on s'en souvient, avaient été éliminés au premier tour à la CAN en Guinée équatoriale. Place maintenant, prochaine escale sur VOA Afrique. Sahel Plus, ce sera avec Claire Morin-Gibault.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
C'est avec l'arrivée des rebelles que j'ai fui parce qu'ils ont sémé la terreur au sein de la population.
Ils ont commencé à tirer en l'air, ils ont dit Allahu Akbar. Après ça, ils ont dit que où est l'argent ? Moi, j'ai dit que je n'ai pas d'argent.
Ils amènent le pays où ? Est-ce que c'est le même système qui doit continuer ?
Toute la famille est venue cueillir la fille pour la ramener et la donner de force en mariage.
On ne veut pas que la guerre commence. Nous voulons que ce soit la fin et non le début.
Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition hebdomadaire de Sahel Plus. Aujourd'hui au sommaire, Boko Haram augmente la pression au Nigeria dans la perspective des élections. Le Burkina Faso veut activer la relance socio-économique de la seconde ville du pays, Bobo Dioulasso.
C'est vrai, on est la capitale économique, mais quand tu arrives à Bobo, tu te rends compte que les jeunes n'ont pas d'emploi. Oui.
Reportage de Zoumana Wanogo à suivre. Au Mali, investissement de 1230 milliards de francs CFA pour moderniser l'armée. Ebola, un nouveau test de diagnostic rapide a été approuvé par l'Organisation mondiale de la santé. Enfin, au Togo, une ONG œuvrant pour l'éducation et le développement des communautés rurales a été récompensée. Voici les sujets que nous allons développer aujourd'hui dans Sahel Plus. Nous ouvrons l'émission avec le Nigeria. Pendant qu'une force régionale est en train de se mettre en place et que les soldats nigérians semblent reprendre un peu de terrain à Boko Haram, les djihadistes mènent des attaques sur plusieurs fronts à l'intérieur et à l'extérieur du Nigeria. Ce qui pourrait ressembler à un changement de tactique alors que des élections sont prévues au Nigeria à la fin mars. Nicolas Pinault.
L'attaque de Boko Haram sur la ville de Gombe au début du mois en a surpris plus d'un. Les djihadistes sont entrés au cœur de la ville pour abattre des soldats et distribuer des tracts, avertissant ceux qui veulent participer au vote du 28 mars. C'était une première. Un habitant de la ville de Dadinkowa, qui avait subi une autre attaque, estime que l'incursion ne semblait pas être pour occuper un territoire, mais pour semer la peur. Je crois que leur objectif était de faire peur aux habitants de Gombe parce qu'ils sont allés dans le centre-ville et même autour de la caserne militaire. Ces dernières semaines, l'armée nigériane a repris son offensive et les troupes du Tchad, du Cameroun et du Niger voisin augmentent la pression sur les djihadistes. Les soldats nigérians assurent même avoir repris plusieurs localités, y compris Baga, sur les rives du lac Tchad, où les extrémistes avaient perpétré un massacre le mois dernier. Pour le journaliste Al-Qassim Abdulkadir, ces gains de l'armée nigériane forcent Boko Haram à changer de stratégie. Si l'offensive devient plus corsée, alors nous les verrons chercher de nouveaux fronts pour mener leur guerre. L'expert prévoit même une augmentation des attentats suicides à mesure que Boko Haram perdra du terrain dans ses fiefs dans l'extrême nord-est du pays. C'est à ce moment qu'ils vont activer les cellules dormantes pour frapper les villes, continuer la guerre, mais pas pour occuper des territoires, ni rester sur la défensive. Mais vous savez, ils vont entrer dans la clandestinité, mais en gardant quelques combattants armés dans certaines zones choisies. Mais je crois que les attaques vont se poursuivre avec plus d'attentats suicides, mais aussi des attaques sur les populations urbaines. Ces derniers jours, Boko Haram a attaqué une série de villages dans l'état d'Adamawa. Ils ont brièvement occupé la ville de Hong avant d'être repoussés par les militaires et les milices locales d'autodéfense. L'imam Daouda Bello est membre de l'initiative interconfessionnelle pour la paix dans l'état d'Adamawa. Ils essaient de traverser vers le Cameroun et ailleurs, mais maintenant le Cameroun les attaque aussi et ils ne peuvent pas aller au Niger ni au Tchad. Ils essaient donc de trouver un moyen de s'échapper. Alors ils peuvent atteindre de petits villages qu'ils vont raser et continuer. Et peut-être ils pourront pénétrer nuitamment dans une ville. Ainsi, ils ne seront pas détectés et certains d'entre eux pourront s'échapper et se fondre comme des citoyens ordinaires. Maintenant, la peur des infiltrés commence à envahir les camps de déplacés internes et la suspicion se répand sur des allégations de gens qui viennent prendre refuge dans les camps alors qu'ils sont membres du groupe djihadiste.
Au Au Burkina Faso, maintenant, pour sa première sortie officielle nationale, le président de la transition, Michel Kafando, a choisi Bobo Dioulasso dans le sud-ouest du pays. Au menu de la visite, délocalisation du Conseil des ministres dans la banlieue de Bobo, visite des usines et rencontre avec les autorités régionales, le tout sur un fonds de relance socio-économique de cette ville qui ne porte plus vraiment son nom de capitale économique. Reportage de notre correspondant à Ouagadougou, Zoumana Wonogo.
Que pensent les Bobolais habitants de Bobo Dioulasso de cette visite présidentielle? Suivons l'avis de quelques jeunes.
Si le président et le premier ministre se sont déplacés pour ici, c'est que c'est sûrement avec une intention de sensibiliser les jeunes ou bien d'encourager les jeunes à participer d'abord tout premièrement au bon déroulement de la transition et puis au développement du Burkina Faso.
Et c'est vrai, on est la capitale économique, mais quand tu arrives à Bobo, tu te rends compte que les jeunes n'ont pas d'emploi. Nous-mêmes, au niveau des universités, nous finissons, mais il y a ce problème-là. Et peut-être après 5 ans, 6 ans, même 10 ans après avoir obtenu ton diplôme, tu manques toujours d'emploi.
Comme le dirait un frère un jour, il disait que la zone industrielle de Bobo, ce n'est que des noms. La zone industrielle, là, c'est cimetière de ferraille.
L'existence de ces cimetières de ferraille serait-elle liée aux difficultés que connaissent les industries à Bobo Dioulasso? Écoutons les préoccupations existentielles de Alexandre Zana. Il est le directeur général des huileries SNCTEC.
Au quotidien, c'est comme à peu près dans toute l'industrie, c'est la fraude. Il faut des importations d'huile. À nous seuls, nous ne pouvons pas répondre à la demande de l'État et de l'ensemble du Burkina des populations. Mais il faut que les fraudes cessent. Il faut des importations, bien entendu, mais qui respectent simplement la législation en vigueur.
À la Sofitex, société des fibres textiles du Burkina, les préoccupations sont d'ordre boursière. C'est ce qu'a confié Jean-Paul Savadougou, son directeur général.
Le coton est coté en bourse, ce qui signifie qu'il évolue, si vous voulez, comme le dollar. Le prix du kilogramme de coton peut changer d'une heure à l'autre. Et donc, quand il y a des variations très importantes du cours mondial, cela joue sur nos activités. Nous avons conçu ce qu'on appelle une petite caisse de péréquation pour permettre justement de prendre en charge ces différentes variations, autant que faire se peut.
Les attentes sont nombreuses et légitimes, mais, assure la ministre en charge du budget, la transition ne peut pas tout faire. Néanmoins, voilà la partition de la transition que nous livre la ministre Amina Bila.
Au rang de ces actions, les travaux d'aménagement de voirie et qui vont coûter environ 2,5 milliards. Il y a également le barrage de Samandeni. Le gouvernement de transition alloue environ 18,5 milliards pour ce gros projet. Le barrage de Samandeni, c'est un agropôle et ça permettra alors de créer de l'emploi. C'est également une possibilité de disponibiliser de l'énergie hydraulique. Mais il faut donner aussi la capacité à ces acteurs au niveau de Bobo de se prendre en charge, soit créer de l'emploi eux-mêmes ou être embauchés. On a prévu à ce niveau qu'il y ait quand même une part importante du fonds initialement prévu pour l'entrepreneuriat féminin, 6 milliards, et pour le secteur informel, 4 milliards 5.
Cette visite à Bobo Dioulasso aura revêtu les avis d'un test de popularité et de confiance en la transition. Le président Michel Kafando.
Nous repartons à Ouagadougou vraiment satisfaits et surtout convaincus que la transition a derrière elle beaucoup de gens qui la soutiennent, un soutien inébranlable. Et ça va nous aider à avancer et à appliquer le programme que nous nous sommes donné.
Zoumana Wonogo, Ouagadougou, VOA Afrique.
Ouagadougou, vous nous écoutez sur le 102.4 FM. Direction le Mali à présent, gros coup de pouce financier pour l'armée malienne qui va bénéficier d'un investissement de plus de 1230 milliards de francs CFA pour la période 2015-2019. Un montant fixé par la loi d'orientation et de programmation militaire adoptée à l'unanimité au Parlement malien. De Bamako, la correspondance de Kassim Traoré.
C'est la Commission Défense Nationale de la Sécurité et de la Protection Civile qui a été saisie au fond pour l'étude de ce projet de loi relatif à la loi d'orientation et de programmation militaire pour les années 2015-2019. Ce projet de loi a été adopté par le Conseil des ministres en sa séance du 28 janvier 2015. Général Mahamane Touré, chef d'état-major général de l'armée malienne.
Il me semble utile de rappeler la direction stratégique donnée par le chef suprême des armées visant à restructurer
et notre outil de défense en vue d'ériger des forces républicaines respectueuses de l'état de droit, dédiées à la sécurité et à la protection du citoyen malien et de ses biens, constituant ainsi une valeur ajoutée certaine au processus démocratique.
Cela fait quelques années que les Maliens se plaignent de la performance de leur armée nationale. La crise au nord du Mali a été une occasion pour bon nombre de Maliens de savoir la grave crise que traversent les soldats maliens. Soumaïla Traoré, communiquant sur les sujets de l'armée.
La loi de programmation militaire vient à point nommé parce qu'aujourd'hui, il est question de restituer l'armée malienne pour faire face à la réalité du terrain. Cette armée a besoin d'être équipée pour faire face à ses missions régaliennes. Aujourd'hui, on sait que le Mali est confronté au djihadisme qui occupe le nord du pays. C'est une guerre asymétrique et notre armée doit être préparée pour ça. Nous devons former des unités d'élite, des brigades spécialisées à faire face au terrorisme.
La nouvelle loi prévoit plusieurs séries de formations, de recyclage, d'équipements, de construction et de reconstruction des infrastructures militaires, mais aussi le recrutement en masse des soldats pour tous les segments de l'armée malienne et les forces de sécurité. La double crise qu'a connue le Mali en 2012 a révélé au grand jour divers problèmes au sein de l'armée malienne. C'est pourquoi le président de la Commission nationale défense, sécurité et protection civile de l'Assemblée nationale veut qu'il y ait une gestion rigoureuse des fonds qui seront mobilisés. Honorable Karim Keïta.
Elle va doter l'armée en tout ce qui est équipement, personnel, fourniture, aussi les infrastructures. Elle va servir à rehausser tout cela en partant de l'existant, mais aussi en créant de nouvelles casernes, de nouveaux camps. Mais nous serons, nous, au niveau de la commission défense, très regardants sur les dépenses.
Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Vous êtes bien à l'écoute de Sahel Plus sur VOA Afrique et vous nous écoutez sur le 102 FM à Bamako. Rubrique santé à présent pour évoquer de nouveau Ebola. Un nouveau test de diagnostic rapide a été approuvé par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Facile à mettre en œuvre, ne nécessitant aucun courant électrique, il permettra de donner un résultat en un quart d'heure. Pour en savoir plus, nous avons joint par téléphone Tariq Yassarivix. Il est le porte-parole de l'OMS.
Ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est juste donner l'accord et déclarer que ce test particulier remplit les conditions d'efficacité et de sécurité et donc il peut être utilisé dans les pays affectés. Maintenant, il faut vraiment voir déjà quel va être le coût. Le coût de ce test n'a pas encore été fixé. Il faut aussi que le producteur finisse un peu les procédures administratives aux États-Unis. Et donc, en ce moment-là, on va donc voir comment le test peut être mis à la disposition dans les trois pays et donc qui sera intéressé vraiment de financer donc l'arrivée de ce test en Guinée, Sierra Leone et Libéria.
Alors, l'Ebola, vous le savez, c'est toujours une menace qui persiste. Est-ce que vous croyez que ce test va contribuer à éradiquer le fléau ?
Donc c'est un outil parmi d'autres et c'est un outil qui prouve que quand il y a vraiment une volonté, on peut accélérer la recherche. On espère d'avoir le résultat positif pour les tests de vaccins. Mais ceci dit, ça ne va pas en soi arrêter cette épidémie. Ce qu'il faut vraiment faire, c'est aller dans la communauté, faire la surveillance, faire la recherche active des gens qui ont Ebola. Donc on a passé de ce stade où on essayait de construire les centres de traitement et avoir assez de laboratoires. Maintenant, on a des capacités sur place, mais pour arriver à zéro cas, ce qui est l'objectif, il faut vraiment aller dans la communauté, il faut trouver les gens malades, les isoler, leur fournir une prise en charge. Et donc ça va prendre du temps. Et pour cela, il faut vraiment qu'on continue à avoir nos équipes sur le terrain.
Tariq Yassarivix, porte-parole de l'Organisation mondiale de la santé, il était joint par Salwa Jafari. Rubrique éducation, au Togo, la STEJ, une ONG qui promeut l'éducation et le développement des communautés rurales, a été mise à l'honneur. Sa présidente, Emeha Bra Tenou, a été nommée ambassadrice VLISCO en 2014 et elle a pu multiplier les actions d'éducation tout au long de l'année. Pour la fin de son mandat, elle a distribué 4 bourses d'études de 500 000 francs CFA à des étudiantes, une machine à coudre de maroquinerie pour l'atelier Zamke, qui est spécialisé dans la fabrication de sacs et accessoires en matière plastique recyclée, et 100 cartes nationales d'identité pour des femmes du centre d'alphabétisation de Stège. Retour sur le bilan de son année avec notre correspondante à Lomé, Kay Lawson.
3 domaines principaux ont été choisis par l'ambassadrice VLISCO 2014 pour contribuer au développement du Togo. Il s'agit de l'éducation, de la promotion des droits de la femme et de la protection de l'environnement. Pour appuyer le volet environnemental, l'unité de production des sacs et accessoires à partir des sachets plastiques recyclés a reçu une machine à coudre de maroquinerie. Aimé Abra Tenou, présidente de l'ONG Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus et ambassadrice VLISCO 2014.
Dans le domaine de la protection de l'environnement, ça fait 4 ans que nous recyclons des sachets plastiques de type Piowata et nous recyclons maintenant jusqu'à 150 000 sachets Piowata par jour. Ça représente peut-être pas beaucoup, parce qu'il y a plus de 2 millions de sachets qui sont déversés tous les jours à Lomé. Nous venons de monter un second atelier à Palimé où nous recyclons également environ 50 000 sachets là-bas. Il y a le volet environnement, mais il y a aussi l'accompagnement financier des femmes qui collectent ces sachets dans les rues. Ils sont rémunérés à hauteur de 4 francs le sachet plastique.
Sur le plan éducatif, 400 kits scolaires ont été remis aux enfants démunis des milieux ruraux et 4 bourses d'études d'une valeur de 500 000 francs CFA chacune pour des étudiantes des universités publiques du Togo. Le programme de bourse est assuré par le réseau NAASI. Luc Agbetoro, secrétaire général de ce réseau.
Notre programme vise à sortir l'étudiante togolais de ses difficultés quotidiennes en lui octroyant une opportunité de poursuivre ses études à partir des financeurs que nous cherchons au Togo et dans la diaspora. Si nous associons 10 personnes qui financent une bourse de 10 000 francs, nous avons une bourse globale de 100 000 francs qui peut servir à un étudiant qui est dans le besoin mais qui est aussi excellent.
La bourse Mois de la Femme se repose sur 3 critères fondamentaux. Être une jeune fille dans une université publique, avoir au moins 12 de moyenne et une situation sociale délicate. L'une des bénéficiaires de cette bourse est Ayawa Amediovo. Elle est étudiante en deuxième année gestion, option comptabilité contrôle audit à l'université de Lomé.
Cette bourse va m'apporter beaucoup, surtout en matière financière pour l'achat des matériels didactiques. La distance de ma maison jusqu'à l'université de Lomé, c'est un peu grand, donc j'ai besoin des moyens financiers. Donc mon projet d'avenir, c'est d'être expert comptable. Donc je veux promouvoir la transparence dans la gestion, devenir aussi une leader, une modèle pour la jeune fille togolaise.
La dernière action sociale de l'ambassadrice Aimé Abra Tenou est l'établissement de 100 cartes d'identité nationale pour des femmes du centre d'alphabétisation de l'ONG Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus. Kay Lawson, Lomé pour La Voix de l'Amérique.
One day, when the glory comes, it will be ours, it will be ours. Oh, one day, when the war is won, we will be sure.
Sahel Plus, c'est fini pour aujourd'hui. Rediffusion de cette émission vendredi prochain à 18h temps universel. À la réalisation, Michel Joseph, à la technique, Glenn Van Callio, au micro, Claire Morin-Gibourg. Rendez-vous mercredi prochain, 18h temps universel sur VOA Afrique ou d'ici là sur nos pages Facebook ou Twitter, VOA Sahel Plus. Nous nous quittons en musique avec Glory, qui a gagné l'Oscar 2015 de la meilleure musique de film pour Selma, d'Ava DuVernay. Selma retrace la marche pour les droits civiques menée par Martin Luther King en 1964 contre la ségrégation. Bonne soirée et bonne nuit à tous. That's why we walk through Ferguson with our hands up. When it go down, we woman and man up. They say stay down and we stand up. Shots we on the ground, the camera panned up. King pointed to the mountaintop and we ran up. One day, when the glory comes, it will be ours.